Musicoscope. Focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Musicoscope, votre émission dédiée à la découverte de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour ce moment musical, et aujourd'hui nous poursuivons notre voyage au cœur de la danse et de son rapport à la musique contemporaine. Après notre dernière émission sur les codes de la danse réutilisés par les compositeurs contemporains, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le lien qui unit les compositeurs et les chorégraphes au travers de leur collaboration. Il va falloir vous armer d'imagination, car tous les extraits que vous entendrez aujourd'hui sont chorégraphiés. Nous terminerons notre exploration de la danse le mois prochain avec un dernier épisode dédié aux musiciens rendus danseurs par la musique contemporaine. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous prendrons un peu de temps pour parler de l'évolution du rapport entre la musique et la danse au fil des siècles, avant de nous intéresser plus particulièrement aux liens entre la musique et la danse contemporaine. Le rapport entre la musique et la danse n'a pas toujours été aussi évident qu'on le pense. Et encore maintenant, il est sans cesse re-questionné par les artistes. Là où, dans l'Antiquité, Platon pensait ces deux arts comme indissociables, car parvenus de pair depuis les dieux jusqu'aux hommes, l'Église de Rome des 3e et 4e siècles va, elle, les séparer et interdire progressivement la danse, jugée impropre à la religion. On note ensuite une réintroduction de la danse dans les arts galants, puis une nouvelle interdiction au XVIe siècle, car elle détournerait l'homme de Dieu par risque de luxure, de par le rapprochement des corps. Selon Louis XIV, sous Louis XIV, la musique et la danse reprennent une place de choix. Et le roi étant lui-même danseur, il fait créer une académie de danse. C'est à ce moment-là que les artistes, avant souvent autant musiciens que danseurs, vont commencer à se spécialiser dans l'un des deux arts. Avec une question qui émerge, la danse dépend-elle réellement de la musique ? Vous venez d'entendre un extrait de Don Quichotte, un ballet chorégraphié par Petipas en 1869. Ce ballet est un classique du répertoire de la danse et le nom de Marius Petipas est généralement connu de ceux qui s'intéressent un peu à son histoire. Pourtant, la musique de ce ballet est assez révélatrice d'un phénomène courant à l'époque. La musique n'est pas écrite en soi, mais bien pour coller aux volontés des chorégraphes. Nombreux sont les compositeurs qui ont composé pour la danse, depuis les suites de danse baroque jusqu'au répertoire de Haydn ou Mozart, qui comptent respectivement plus de 200 œuvres destinées à être dansées. Le XIXe siècle voit pourtant certains compositeurs se spécialiser uniquement dans l'écriture pour la danse. C'est le chorégraphe qui impose le temps de la pièce, son caractère et son rythme, et le compositeur qui dispose selon ses critères. Il arrive même qu'il ajoute au ballet des pièces d'autres compositeurs, si ce sont les préférés de la danseuse principale, par exemple. Ce sont des compositeurs de l'ombre, et on remarquera d'ailleurs que les noms de Puni, Adam ou Mincus, le compositeur de Don Quichotte, ne sont pas vraiment restés familiers à nos oreilles. Pourtant, les choses changent à la fin du XIXe siècle, quand les compositeurs de ballet décident qu'il est temps que la musique reprenne ses droits.
Thank you.
entendre dans cet extrait du ballet Sylvia de 1876 que l'écriture musicale de Léo Delibes est beaucoup plus symphonique que dans l'extrait précédent. Les compositeurs cherchent alors à ce que la danse découle de la musique et pas l'inverse, qui imposait avant un carcan étroit aux compositeurs et aux musiciens. Ce changement, perpétré également par Édouard Lalot dans Namouna ou Paul Dukas dans le ballet La Pairie, ne se fait pas sans peine. On reproche à la musique d'être indansable, car pas assez rythmée et trop centrée sur elle-même. Pourtant, c'est notamment grâce à la musique de Delibes que Tchaïkovski va s'intéresser à l'écriture pour la danse. En découleront les chefs-d'œuvre que nous lui connaissons, Casse-noisette et Le lac des cygnes. Nous sommes maintenant au début du XXe siècle, à l'orée de la période contemporaine et au début d'une révolution dans le monde de la musique et de la danse, les ballets russes. Les ballets russes, ce sont une compagnie créée en 1907 par Diaghilev avec les meilleurs danseurs du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Ils comptent dans leur rang Nijinsky, Fokine et Balanchine, dont nous reparlerons plus tard. La particularité des ballets russes, c'est qu'ils placent la danse sous la tutelle de la musique et de la peinture, et qu'ils font appel à des peintres et non des décorateurs, ainsi qu'à des compositeurs non spécialisés dans l'écriture de la danse pour leur création de ballets. Ils travaillent avec Satie, Ravel, Debussy, Poulenc, Millau et évidemment Stravinsky, dont vous venez d'entendre un extrait de son très fameux « Sacre du printemps ». Autant de compositeurs qui deviendront par la suite extrêmement célèbres, mais pas uniquement en tant que compositeurs pour la danse. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'ils reprennent des extraits de leurs compositions de ballet pour en proposer une version de concert sans la danse. Stravinsky nous offre d'ailleurs une porte d'entrée toute trouvée vers la question des collaborations avec les chorégraphes, qui seront de plus en plus nombreuses au XXe siècle. Là où les chorégraphies de Fokine semblent presque trop compliquées pour la musique de Stravinsky, avec des danseurs qui n'arrivent qu'avec peine à coordonner leurs mouvements avec les motifs des instruments, celles de Nijinsky ne correspondent pas à la vision de Stravinsky, qui voit des mouvements simples et rythmiques, là où Nijinsky propose une révolution du mouvement dansé, novateur, certes, mais très complexe. Stravinsky trouvera finalement son entente avec Balanchine, qui estime que le public doit pouvoir voir la musique et écouter la danse. Il symbolise alors mélodie, rythme ou cellule d'accompagnement par le mouvement, toujours au service de l'interaction avec la musique. C'est le résultat visuel de la connexion entre les deux arts est tout bonnement exceptionnel, comme dans Apollon Musagète, ballet néoclassique dont vous venez d'entendre un extrait.
Musicoscope sur Radio Campus Angers 103 FM.
Maintenant, fort de ce nouveau lien entre la musique et la danse, place à une pionnière de la danse telle qu'on la connaît aujourd'hui, Martha Graham.
Thank you.
cet extrait de Primitive Mysteries, on entend la musique de Louis Horst, proche collaborateur de Martha Graham et qui a changé son regard sur son rapport entre la musique et la danse. Là où elle considérait la musique comme un décor pour la danse, il va l'inciter à travailler avec des compositeurs contemporains, à leur laisser de la liberté dans leur création. Elle propose un scénario gestuel et le compositeur un scénario musical en retour. Elle porte aussi attention aux instruments utilisés, plutôt des bois, pianos et percussions, auxquels les corps des danseurs répondent mieux, selon elle. Une autre collaboration fructueuse dans l'histoire de la musique et de la danse est celle de William Forsythe et de Tom Willems. Ici, ce sont des sons plus électroniques qui sont explorés et qui correspondent au tournant musical de l'utilisation des bandes magnétiques puis de l'électronique dans la musique classique. Un extrait tout de suite. D'entendre un extrait de In the Middle, Somewhat Elevated, chorégraphié par Forsythe sur une musique de Tom Willems. Il est intéressant de constater que la musique évolue dans l'histoire à sa vitesse, avec notamment l'apparition de l'électronique, et la danse à la sienne, avec le glissement des mouvements classiques vers les plus contemporains, en passant par le néoclassicisme. Mais que les deux se rejoignent toujours à un moment sur le chemin. On pourra aussi citer les moments où la danse permet l'évolution de la musique, comme quand Béjart chorégraphie la symphonie pour un homme seul de Pierre-Henri et Pierre Schaeffer, et permet alors à la musique concrète d'accéder à un plus grand public. Mais aussi quand Cage met en place le piano préparé, un piano dans lequel on insère des objets pour produire de nouveaux sons. Quand Sylvia Fort lui demande une composition pour ensemble de percussions, mais qu'il n'y a pas assez de place dans la salle pour autre chose qu'un piano. En plus de l'expérimentation électronique, un autre courant de la musique contemporaine fait quasiment l'unanimité chez les chorégraphes, la musique minimaliste. Teresa de Kersmaeker va par exemple utiliser pendant longtemps la musique de Steve Reich, ici Music for 18 Musicians, pour ses compositions. La musique de Reich offre une régularité rythmique et une pulsation stable, mais aussi une étude de décalage entre les cellules musicales que Anne-Teresa de Kersmaeker traduit sur scène par des déplacements et des gestes extrêmement précis. Elle dit elle-même que la musique a été son premier partenaire dans la danse. Reich sera utilisé par de nombreux chorégraphes et la majorité de ses pièces ont été chorégraphiées des fois plusieurs fois. Dans la lignée des minimalistes, nous pouvons aussi noter la collaboration de Lucinda Childs et de Philip Glass dans Einstein on the Beach, dont voici un extrait. De plus en plus, malgré la collaboration fréquente entre les chorégraphes et les danseurs, on note une volonté des deux côtés de travailler indépendamment. Le compositeur et le chorégraphe travaillent chacun de leur côté et rassemblent leur travail éventuellement. Un des plus forts exemples de ce rapport est le lien qui unissait Merce Cunningham et John Cage. Les deux voient la musique et la danse comme cohabitants, mais aussi comme deux arts indépendants. La musique ne doit pas dépendre de la danse et la danse pas être soumise à la musique. Voici un extrait de 16 Dances for Soloist and a Company of Three. Plus leur collaboration avance, plus Merce Cunningham et Cage s'éloignent pendant leur procédé créatif. D'abord, ils ne partagent que des durées de pièces, puis choisissent des durées indépendantes. Ils explorent l'indétermination, à savoir qu'ils ont une bibliothèque de mouvements ou d'extraits sonores prévus à l'avance, mais qu'ils laissent ensuite le hasard déterminer dans quel ordre ils seront joués. Puis Cage explore avec Cunningham le fait que ces musiciens se déplacent sur scène dans Etc., où les musiciens se déplacent selon leur volonté entre trois chefs sur l'espace scénique. À la fin de leur collaboration, ce que la musique de Cage et la danse de Cunningham partagent, ce n'est plus le temps, mais bien un espace commun. De cette recherche de liberté et d'indétermination, on notera aussi des démarches d'improvisation, soit musicale, soit dansée, ou même les deux en même temps, mais également celle de chorégraphes qui chorégraphient des pièces dans le silence. C'est Lee Farr qui le propose le premier dans son manifeste du chorégraphe de 1935, en mentionnant que la base rythmique devrait être le choix du chorégraphe et pas celui du musicien. Il n'a lui-même jamais chorégraphié une telle œuvre, mais Lucinda Childs, dont nous parlions tout à l'heure, et Jerome Robbins, eux, l'ont fait. On pourrait alors penser qu'on n'entendrait aucun son, et pourtant... Ce travail, ici dans Moves de Jérôme Robbins, change jusqu'à la perception de la danse en soi et du rapport des danseurs entre eux, qui n'ont plus de trame musicale sur laquelle se repérer et doivent donc être d'autant plus attentifs les uns aux autres. Le mouvement et le souffle deviennent alors musique en soi. Comme le mentionne Cunningham, un mouvement est expressif en soi car l'expression est dans le rythme. Mais rien ne dit que ce rythme doit être sonore. Malheureusement, depuis les années 70 environ, les compositeurs ne sont plus vraiment sollicités pour de la musique originale destinée à des ballets. Les chorégraphes leur préfèrent généralement des musiques déjà existantes, comme c'était le cas au début du XXe siècle. C'est donc sur ce constat que le rapport entre les chorégraphes et les compositeurs n'a définitivement pas fini d'évoluer que notre émission d'aujourd'hui va s'achever. Comme je sais bien qu'il est frustrant de ne pas avoir vu les chorégraphies des extraits musicaux que nous avons entendus aujourd'hui, vous trouverez évidemment tous les liens qu'il vous faut pour les découvrir à présent avec vos yeux sur l'article dédié à l'émission sur le site de Radio Campus Angers. Vous pourrez également y retrouver l'émission et les précédentes, ainsi qu'un espace dédié aux commentaires, si vous souhaitez en laisser un. Merci à Étienne pour son aide à la technique, et une nouvelle fois à Claire Paolacci, dont l'excellent livre « Danse et musique » m'a beaucoup aidée dans la préparation de cet épisode. Nous nous retrouverons le lundi 20 novembre pour notre dernière émission consacrée à la danse, dans laquelle nous verrons comment les musiciens eux-mêmes deviennent des fois danseurs, à la demande des compositeurs contemporains. En attendant, nous nous quittons sur le très beau Spiegel im Spiegel d'Arvo Pärt, qui a servi de trame pour la chorégraphie Smoke de Mats Eck, dansée par la fantastique Sylvie Guilhem. Bonne écoute et bonne journée.
Vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les premiers et troisièmes lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.